c'est l'état d'urgence.
J'ai envie de vomir.
Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein.
Tout ça avec la violence. Et c'est aussi ce qu'on a envie de dire.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible, et interroger tous ses habitants.
Personne ne se prépare à ce que dans la nuit, ils viennent défoncer leurs portes, même si elles vont chez eux.
Tout ce bazar est parti pour lui.
C'est l'état d'urgence.
38 jours d'état d'urgence, une moyenne de 87 portes pétées à l'explosif à coups de pied, à coups de bélier. 87 perquisitions par jour en moyenne depuis 38 jours d'état d'urgence. C'est parti pour durer, on ne l'accepte pas, on ne l'acceptera pas. On continuera à en parler et à ne pas être d'accord.
C'est lundi, c'est le front du lundi, vous êtes toujours à l'écoute de Canal Sud. Aujourd'hui 21 décembre, le front du lundi vous propose la rediffusion d'un numéro de C'était mieux avant, une émission qui à l'époque reparlait et parlait de la première nasse policière toulousaine. Bon anniversaire, c'était un 17 décembre, en soutien à des camarades incarcérés en préventive pour de drôles d'histoires. On se retrouvait à Jean Jaurès, encerclé par une troupe de rugbyman en uniforme qui avait bien décidé d'arrêter tout le monde, des pratiques qu'on connaissait à Paris, à l'époque pas encore dans la ville rose. Voilà, c'était il y a 4 ans et cette émission sera suivie d'un retour de 5 ans.
5 ans, ouais.
Mon Dieu, comme
2011,
ça
fait.
Ah ben non.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours l'impression qu'on est en 2016.
Eh oui, je sais.
Ah, c'est fou ça.
Et c'est ton côté d'anticipation, c'est ton côté visionnaire toujours.
Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive.
Mais c'est parti pour durer ça aussi. Voilà, on entendra aussi Mathieu Régouste dans cette émission. Ça, c'est à 13h.
C'est l'émission d'après, c'est deux émissions différentes. C'est une interview de Mélo avec Mathieu sur les marchands de peur. Et avant, c'est oui, effectivement, comme tu l'as dit, ce truc-là. Alors, peut-être juste une petite précision pour rappeler que tout ça a fini avec un procès qui s'est déballonné largement avec 3 acquittements, donc des gens qui ont fait de la préventive pour rien, 3 relax et 2 peines avec sursis. C'est toujours trop, c'est toujours beaucoup, mais vraiment tout ça pour ça.
Voilà, et évidemment à l'époque, hein, ceux qui protestaient contre ces détentions donc se retrouvaient dans les NAS dont vous entendrez parler à 13h sur le front du lundi. En attendant, quelques brèves, on va vous reparler peut-être un petit peu plus en détail d'une belle initiative, l'Observatoire de l'état d'urgence. Peut-être tu nous en dis deux mots.
Ouais, bah en fait, il y a un site qui s'est monté, c'est toulouse.étatdurgence.fr. C'est la suite de ce que nous avait dit le COAP, le collectif pour une union antiraciste et populaire. Et donc qui recueille des témoignages. On va parler d'un qui a été là. Et puis après, on parlera sans papier parce qu'il y a un rassemblement tout à l'heure et on aura quelqu'un au téléphone.
Et ben voilà. Donc un beau programme, on commence par un petit son, c'est ça, si je ne m'abuse.
Allez.
Dans le rapport parlementaire intitulé « Développer des réponses plus graduelles pour mieux conjuguer ordre et liberté », nous trouvons la phrase suivante. Journalistes et forces de l'ordre ont tout à la fois un intérêt commun et un devoir de travailler ensemble. Et à tout le moins de ne pas nuire à l'exercice du métier de l'autre. En effet, la transparence sur leur professionnalisme et sur l'attitude violente et ou délictueuse de certains manifestants ne peut que servir les missions des forces mobiles et, si certains ont déploré devant la commission la diffusion de montages grossiers caricaturant l'action des forces de l'ordre à Sivens, elles étaient le fait des organes de communication officiels et monopolistiques de la ZAD. De leur côté, les journalistes ont besoin de la sécurité offerte par l'action des forces de l'ordre et que cette action ne les empêche pas de travailler en toute indépendance.
Voilà, Le vrai jingle. Alors ça, c'était pas du poisson tout frais. Souvenez-vous, là, c'était une citation d'un rapport parlementaire qui avait été élaboré et remis suite à l'assassinat de Rémi Fraisse, hein, sur la ZAD. On entendait parler de la ZAD dans ces quelques mots. À l'époque, effectivement, cet événement qui avait mis pas mal de monde en émoi avait amené à la constitution d'une enquête parlementaire. Et aux surprises, en fait, on découvrait que c'est pas tellement que les gendarmes étaient des assassins ou autre chose comme ça. On avait découvert qu'il fallait communiquer autrement. Il y avait de très belles lignes sur le travail, la nécessaire collaboration entre les journalistes et les policiers, qui devait permettre peut-être de diminuer l'opposition ou les réactions suite à l'assassinat de manifestants. Eh bien, on découvre là, à l'occasion de l'état d'urgence, que des journalistes, en tout cas, ont bien lu ces sollicitations préfectorales et ce rapport parlementaire, puisqu'on découvre que non seulement ils ont augmenté leur collaboration avec les forces de l'ordre, mais ils vont jusqu'à du mimétisme, une sorte de caméléon, puisque le journaliste d'aujourd'hui, le journaliste 2.0, le journaliste de 2015 de la Dépêche du Midi, ne se contente pas d'être le journaliste embarqué avec les forces de l'ordre, il en adopte l'uniforme. Et qu'est-ce qu'on découvre grâce à l'Observatoire de l'état d'urgence à Toulouse? Que deux jours après les attentats, lors des premières perquisitions, un journaliste que nous ne nommerons pas parce qu'on n'est pas encore complètement sûr de qui c'est.
On n'est pas sûr, mais on trouvera.
On trouvera, voilà.
On trouvera. Alors, qui était... Parce que pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, qui c'est ?
On ne sait pas qui c'est parce que maintenant les journalistes se pointent cagoulés lors des perquisitions. On vous fait le début de l'histoire. Ouais, deux jours après les attentats du Mirail, il y a des gens de l'Observatoire de l'état d'urgence qui vont rencontrer un dénommé Hassan, le prénom a été changé, qui a été victime d'une de ces perquisitions-là. On vous le fait très vite, un mec qui vit seul et élève seul trois enfants, en bas âge, on le précise pour la suite de l'histoire. Il se réveille en pleine nuit, explosion de sa porte, il est à poil, et il est plaqué au sol. Alors, une semaine après, il leur raconte qu'il garde toujours la trace des coups perdus, des coups perdus, pas perdus pour tout le monde, des coups reçus, nombreux coups de pied des deux côtés. Donc il constate une semaine après les coups, il voit même la trace d'une chaussure sur sa poitrine. Et donc Hassan raconte que les flics rentrent chez lui en hurlant 129. Alors si vous n'avez pas suivi, si vous étiez dans un igloo depuis un mois, 129 c'est le nombre de victimes en additionnant le Bataclan et toutes ces histoires-là. Donc les flics rentrent en hurlant 129. Les flics lui hurlent « je vais te tirer dessus », etc. Évidemment sous le regard de ses enfants. Et donc sous prétexte de chercher des armes, hein, les flics c'est une perquisition légale, le préfet a signé une autorisation pour ça, sous prétexte de chercher des armes, ils vont saccager son appartement, ils vident les étagères, le cadre de son lit est cassé, ils pètent sa télé, donc évidemment on imagine c'est un bon endroit pour planquer des kalachnikovs, un écran plat. Donc les témoins là, de l'Observatoire de l'état d'urgence voient une télé dans laquelle il y a 7 impacts. Bref. Il lâche les chiens à la recherche éventuellement de drogue aussi, puisque bon, c'est une perquisition pour des armes, mais enfin on sait jamais, peut-être qu'on va réussir à trouver autre chose qui pourrait justifier a posteriori cette perquisition. Ils repartiront avec rien du tout, ils repartiront avec des belles photos. Parce que ce qu'ils vont faire, les flics, c'est qu'ils font descendre Hassan. Donc ça fait une heure de perquisition où il était à poil, ils le font descendre, pour ça ils le laissent le temps d'enfiler son sweat capuche, ils le descendent dans la rue, et qu'est-ce qui attend dans la rue? Un journaliste cagoulé. Donc les flics mettent à disposition de ce journaliste photographe leur projecteur, et donc devant la façade de son immeuble, sous les projecteurs de la police, pendant 20 minutes, le mec qui a eu le temps à peine d'enfiler son sweat capuche est pris en photo par le journaliste de la Dépêche du Midi, et ces photos vont avoir un bel, pour le coup, un joli coup de photo reporter, puisque ces photos sont reprises en France, à l'étranger, sur les histoires de guerre contre l'islam radical. À chaque fois, pendant plusieurs jours, quand il y aura des perquisitions, le lendemain, la première fois qu'ils utilisent sa photo, c'est pour illustrer une saisie administrative sous prétexte qu'il est trois quarts à l'arrière. On le reconnaît pas trop, mais évidemment, tous ses voisins-voisines le reconnaissent. C'était pour illustrer la saisie d'1,5 kg de cannabis. Voilà. Et donc, cette photo va être utilisée, vous pourrez la retrouver, hein, allez chercher ça sur le site de la Dépêche, ou sur IATA, puisque c'est grâce à IATA, le site IATA, IAATA, qu'on a eu vent de cette histoire, de ce témoignage, de ces gens qui sont allés chercher un petit peu quelques jours en suivant l'histoire d'Hassan.
Et donc aussi, ce truc, c'est un type, on voit sur la photo, hein, c'est un grand balèze, il est bien charpenté. Il a effectivement, alors cette fois-ci, le Toulouse point état d'urgence ne prend pas la peine de le dire, il est barbu.
Il est arabe.
Quoi, il était barbu parce qu'il a dû se couper la barbe à la demande de son père, parce que son père doit avoir peur. Et il a décidé de plus aller à la mosquée parce qu'il a peur aussi, parce qu'il a peur que ça aggrave son cas. Voilà, et c'est comme ça que dans le reste du monde et dans plein d'endroits, on pense que la police arrête des islamistes radicaux qu'on reconnaît à quoi ? Ben, en fait, qu'ils ont une barbe. Voilà.
Et à ceux et celles qui se demanderaient, ben oui, mais enfin, il a porté plainte, il obtiendra quelque chose. Évidemment, il ne s'est même pas fait examiner par un médecin. Déjà, il tente d'oublier le plus rapidement cette histoire. Donc, ça ne va pas faire augmenter les chiffres de la délinquance policière, vu que des histoires comme ça, s'il n'y avait pas eu l'observatoire de l'état d'urgence, en fait, personne ne va le voir. Et il a dû batailler à la fin de la perquisition pour voir le papier, pour s'assurer quand même que c'est une perquisition légale. C'est une perquisition légale, hein, qu'elle soit administrative ou pas. Voilà.
Donc c'est un exemple parmi d'autres. Méfiez-vous de toutes les photos que vous voyez, de tout ce qu'on nous raconte. On cherche à nous faire avaler de la peur. Voilà, on se demande qui va pouvoir décortiquer tout ça, parce que si les journalistes sont cagoulés, eh bien il faudrait démasquer les experts.
Et c'est ce que certains s'amusent à faire, des journalistes cagoulés et des experts démasqués. On était le mercredi 8 décembre. On revient sur la COP21. Un petit post-scriptum tout à fait sympathique. On change d'ambiance. Merci Greenpeace pour cette fois-ci, ils nous ont fait un beau cadeau. Greenpeace s'est amusé à essayer de piéger les fameux experts, vous savez, ceux qui font des rapports, des physiciens, des sociologues, des psychologues et autres experts qui parlent de l'impact du carbone et de toutes ces choses dont on parlait, ces gens qui nous gouvernent à la COP21. Et donc Greenpeace a fait passer certains de ses membres pour des intermédiaires, de gens qui travailleraient pour des industriels, en leur disant, en gros, en cherchant à savoir si certains chercheurs du monde académique accepteraient d'être rémunérés pour rédiger et signer des rapports, on va dire, de complaisance, en acceptant de cacher les sources de leur financement. Et donc, ils ont adressé, début novembre, au physicien William Harper, qui est professeur à l'université de Princeton. Attention, tenez-vous bien, c'est pas le Mirail ou Jean Jaurès, hein. L'université Princeton. Donc, un militant de Greenpeace se fait passer pour un consultant en relations publiques basé à Beyrouth, en lui disant « Notre client est une compagnie pétrolière du Proche-Orient inquiète de l'impact de la conférence climatique des Nations Unies qui doit se tenir ce mois-ci. Nous pensons que, vu votre travail important sur le sujet et votre poste à Princeton, un très court article écrit ou endossé par vous pourrait œuvrer fortement en faveur de notre client. » Donc il tente le coup, Greenpeace. Et le faux consultant demande au physicien, qui, pour la petite blague, avant d'être juste physicien à Princeton, il est aussi haut responsable de la recherche au sein du ministère américain de l'énergie. Ça, c'est pour replacer le gonze. On parle de William Harper, là. Et donc, le faux consultant lui demande d'écrire un article sur les bénéfices du pétrole et du gaz. Et qu'est-ce qu'il fait, le scientifique, l'expert, le mec qui est haut responsable de la recherche au sein du ministère américain? Et ben, il accepte et il précise que ses honoraires se montent à $250 de l'heure. Il souhaite toutefois que les sommes soient versées à CO2 Coalition, un think tank climato-sceptique qu'il défraie. Alors lui, il ne règle pas de salaire officiellement, donc on sent la petite magouille à $250 de l'heure, ça vaut la peine de se casser la tête à faire des belles magouilles. Cependant, pour garantir la crédibilité de l'article demandé, le faux commanditaire demande au physicien s'il est possible de maintenir le financement secret. Réponse du physicien. Si j'écris l'article seul, je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème à indiquer. L'auteur n'a reçu aucune compensation financière pour ce texte, répond Monsieur Harper. C'est pas beau ? Mais ce n'est pas tout. Au fil de sa correspondance avec le faux consultant, Monsieur Harper révèle, en passant, que le charbonnier américain Peabody a déjà payé pour l'une de ses auditions devant une instance réglementaire du Minnesota, ce qui n'avait été jamais révélé. C'est beau. Alors, on n'en a pas que contre les physiciens au front du lundi, et on se paye un petit sociologue, Frank Clemente. Et déjà, pour la petite blague, hein, si vous hésitez entre des études à Rangueil ou au Mirail, c'est mieux payé sociologue, c'est pas 250, c'est $275 de l'heure. Écoutez bien la petite histoire de Frank, c'est beau, hein. Frank Clemente, professeur émérite à la Penn State University en Pennsylvanie, est également tombé dans le piège. Alors lui, il a accepté la transaction et de casser ses shows. Lui aussi accepte la transaction et de cacher ses sources de financement. Le fonds consultant dit cette fois travailler pour un charbonnier asiatique, cherchant à faire produire par un universitaire prestigieux, hein, flagornerie quand tu nous tiens, un rapport pour contrer les études liant le carbone à une mortalité prématurée, en particulier le chiffre de l'OMS selon laquelle 3,7 millions de personnes meurent chaque année de la pollution due à la combustion des fossiles. Réponse de Monsieur Clemente, notre notre sociologue de la Penn State University. Il accepte d'écrire sous son titre de professeur à la Penn State University pour détailler les bénéfices du charbon sur les économies, en particulier dans les pays en voie de développement. Ses honoraires ? En général, $275 par heure. Mais si c'est pour un article un peu plus conséquent, $15,000 pour un article de 8 à 10 pages et $6,000 pour une tribune publiée dans la presse. Pour montrer l'efficacité de son travail, le mec, il écrit au faux consultant de Greenpeace, il cite l'une de ses tribunes en défense au charbon publiée en mars par une cinquantaine de titres de la presse américaine. Il joint aussi à son message de réponse son témoignage d'expert devant une instance réglementaire du Tennessee devant statuer sur la fermeture d'une centrale à charbon. Citation. Dans aucune de ces situations, le sponsor n'a été identifié, écrit-il. Je publie tous mes travaux comme scientifique indépendant. Et les prix peuvent grimper. Le rapport sur la valeur mondiale du charbon, dit-il, a été plus extensif et a coûté $50,000 pour 8 semaines de travail. Voilà. Et ben ça c'est beau, c'était dans la catégorie voilà, ces experts qui nous conseillent, ces journalistes qui nous informent, ces policiers qui nous protègent.
Ouais, je pense qu'on est comment on dit, on est bien entouré, on a de la chance, d'être en démocratie, d'avoir la transparence, d'avoir tout ça, tous ces chefs d'État qui sont réunis pour signer ces accords, bien conseiller, c'est un monde merveilleux.
Comme disait Rudy Minamé, tout ça c'est le grand cirque électoral, ouais,
le grand cirque, allons, grand cirque, tourne.
N'était pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. Ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille.